إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. Donc nous poursuivons l'explication du livre en langue française. L'explication du livre Ta'sir sur l'Ahkam, l'Al-Allama, al-Sheikh Ahmed ibn Yahya al-Najmi, rahimahullah ta'ala. On va terminer aujourd'hui ce sous-chapitre pour pouvoir commencer le prochain cours, Bab al-Tashahud. Donc il nous reste deux hadiths pour aujourd'hui. Le numéro 117, toujours bien entendu avec le tarqim, la numérotation de Ta'sis al-Ahkam, suivant les éditions Darul Minhaj. Donc, le hadith numéro 117 et 118. يقول المؤلف رحمة الله عليه عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال من أكل ثوما أو بصلا فليعتزلنا وليعتزل مسجدنا وليقعد في بيته وأوتي بقدر فيه خضرات من بقول فوجد لها ريحا فسأل فأخبر بما فيها من البقول فقال قربوها إلى بعض أصحابي فلما رآه كره أكلها قال كل فَإِنِّي أُنَاجِي مَا لَا تُنَاجِي. Donc pour ce qui est de ce hadith de Jabir ibn Abdillah radiallahu ta'ala an, qui rapporte du prophète sallallahu alayhi wa sallam cette parole: مَنْ أَكَلَ ثَوْمًا أَوْ بَصَلًا فَلْيَعْتَزِلْنَا أَوْ لِيَعْتَزِلْ مَسْجِدَنَا وَلْيَقْعُدْ فِي بَيْتِهِ. Pour ce qui est du mawdou' du sujet de ce hadith, c'est ar-rukhsa, la permission. Ar-rukhsa, liman akala thawm. Donc, thawm, c'est l'ail. Wal-basal, al-basalu, c'est l'oignon, les oignons. Wal-kurraf, al-kurraf, c'est les poireaux. On va le voir dans la deuxième version ensuite, ou dans le deuxième hadith, toujours de Jabir, celui qui suit. Donc, ar-rukhsa, pour celui qui a mangé l'ail, l'oignon ou le poireau, de délaisser la prière en groupe. Mais cette rukhsa, elle est mashroute, elle est conditionnée. Quelle est sa condition ? Ma lam yaj'al dhalika wasilatan wasilatan maqsoodatan li tark al jama'a qasidan bihi al i'tidhar 'an al jama'a kana fi'luhu haraman. Donc la condition de cela, c'est qu'ils ne prennent pas ce moyen pour pouvoir délaisser al-jama'a. Et s'il fait cela dans le but, donc ici maqsouda, si son but c'est de délaisser al-jama'a, donc il fait exprès de manger de ces aliments-là qu'on a cités, les trois, l'ail, l'oignon, le poireau, il le fait exprès de manger pour, avec la niya, avec le qasd, avec la volonté de ne pas venir à la mosquée, pour trouver donc une excuse. Alors dans ce cas-là, son acte il est haram, et il tombe dans le péché. Donc la condition, c'est qu'il n'a pas la volonté de faire cela exprès, volontairement, pour pouvoir trouver une excuse de ne pas aller à la mosquée. Donc comme on l'a vu, al-thawm al-basal, ça vient donc de deux arbres qui sont connus, mais dont leur odeur est détestable. Lorsque la personne la mange, donc l'odeur qui en ressort de la bouche après qu'il l'ait mangée, c'est une odeur qui est détestable. Et la seule manière de pouvoir faire partir cette odeur, c'est avant de consommer l'ail, l'oignon ou le poireau, c'est tout simplement de le faire cuire. Idha umita tabkhan. Donc lorsqu'on fait cuire, on fait partir l'odeur. Donc ensuite, lorsqu'on mange l'ail, l'oignon ou le poireau, lorsqu'il est cuit, il n'y a pas d'odeur. Donc c'est uniquement lorsqu'on le mange non cuit. Et certains des gens, ou certains docteurs, des gens de la médecine, ils ont dit que Ashidab, donc Ashidab, ce qu'on appelle en français la rue des jardins, ou la rue fétide, c'est une espèce de sous-abrisseau de la famille des Rutacées. Son nom scientifique, c'est Ruta graveolen, donc ce qu'on appelle en arabe Ashidab. Donc ici, le shir, il rapporte cette faïda. Lorsqu'on mâche donc cette herbe, alors ça fait partir l'odeur de ces aliments qu'on a cités. Et la couleur de cette herbe-là, c'est bien entendu vert, mais avec comme des petites fleurs qui sont de couleur jaune. فَلْيَعْتَزِلْنَا أَوْ لِيَعْتَزِلْ مَسْجِدَنَا إِذْن فِي التَّخَلُّفْ عَنِ الْجَمَارَةِ. Donc ici, c'est la permission de délaisser la prière en groupe. أَوْ تَهْدِيدْ بِحِرْمَانْ ثَوَابِ الْجَمَارَةِ. Ou alors, ici, التَهْدِيدْ, ou être privé de la récompense de الجَمَارَةِ, du groupe. Ensuite, فِي الْحَدِيثْ وَأُوتِيَا بِقِدْرٍ. Donc on est venu, Al-Qidr, c'est Al-Ina, Yutbakhufi al-Ta'am, donc c'est la marmite, ce que l'on traduit nous par marmite, une marmite. Donc lorsqu'on dit Qidr, c'est l'endroit où on fait cuire les aliments, légumes, viande, etc. Na'am, wa utiya bi qidrin fihi khadirat. Donc on peut prononcer également بالضم الأولى وفتح الثانية يعني خضرات مي فتح الأولى وكسر الثانية c'est ce qui est le plus connu comme l'a rapporté l'imam Sanani في العدة et l'imam Ibn al-Athir في النهاية n'a rapporté que فتح الخاء وكسر الضاد que la prononciation خضرات et c'est ce qui est le plus connu فيه خضرات فيه خضرات من بقول min buqul. Donc al buqul qui est le pluriel de baql et ce qui englobe tout ce qui rentre dans la catégorie des herbes et plus précisément des feuilles d'arbres et que l'on mange naturellement sans les avoir fait cuire. Ça, il rentre dedans également les graines ou alors ce qu'on a pour appeler plus les légumes verts. À la kulli hal ici, al murad ma ya'kuluhu al insanu min waraq al ashjar. Et ensuite la parole du prophète sallam kul fa inni unaji man la tunaji al murad bidhalika munajatul malak wal munajatu hiya al mufahamatu sirran wal amru huna amru ibaha. Naam, al munaja, donc c'est le fait de parler avec une personne en secret, de se comprendre en secret. Et ici al maqsoud, comme on va le voir ensuite, al munaja al malak, c'est-à-dire l'ange Gabriel. Wal-amruna kul, c'est-à-dire mange. Al-amruna, comme on le comprend dans le contexte, ce n'est pas un amr qui veut dire l'obligation, mais un amr qui veut dire ici al-ibaha, qui veut dire l'autorisation de manger. Kul. Mais ce n'est pas une obligation ici, même si le verbe il a l'impératif. Mais le contexte, siyaq, on a siyaq al-jumla. On comprend bien que c'est uniquement une autorisation de manger, pas une obligation. Donc pour ce qui est du sens général du hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a interdit de manger thawm, le basal, le kurraf, ni an yadkhul al masjid. Ou naha an-nabi sallallahu alayhi wa sallam, man akala thawm, le basal, le kurraf, ni an yadkhul al masjid. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a interdit à celui qui a mangé donc l'ail, l'oignon ou le poireau, il les a mangés de manière naturelle, sans les avoir fait cuire, sans cuisson, de rentrer dans la mosquée. C'est interdit. Il l'a obligé de s'écarter de la mosquée et de rester dans sa maison. Ensuite, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, on lui a apporté une marmite où il y avait de l'ail qui était cuit. Parce qu'ici, fi qidrin. Donc le qidr, c'est la marmite. Donc automatiquement, si c'est une marmite, ça veut dire que ça a été cuit. Et il y avait donc la présence de thaum, d'ail, dans la marmite. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, donc, il l'a senti. فَوَجَدَ لَهَا رِيَحًا. Il a senti qu'il y avait l'oignon. Et il l'a délaissé. Et il a dit, قَرِّبُوهَا إِلَى بَعْبِ أَصْحَابِ. Yani, rapprocher ou donner cette marmite à certains de mes compagnons. Mais celui à qui on lui a présenté ensuite cette marmite, il a détesté manger. Pourquoi ? Parce qu'il a vu que le prophète sallam il l'a délaissé. Et quand il a vu cela, le prophète sallam il lui a dit, Kul fa inni unaji man lam tunaji. Ay annahu yukallimu al-malak. C'est-à-dire qu'il parle à l'ange, l'ange Gabriel. Donc il lui a donné ici l'illah, il lui a donné la raison pourquoi lui il n'a pas mangé. Et comme on va le voir, ça rentre fil khasa'is an-nabi sallallahu alayhi wa sallam. Et vu qu'il l'a donné aux compagnons, ça veut dire que pour lui ce n'est pas détestable et ce n'est pas interdit. Pour ce qui est du fiqh de ce hadith, awwalan, on va extraire de ce hadith comme fiqh qu'il est détestable de manger tout ce qui rentre donc dans les feuilles d'arbres qui ont des odeurs kariha pour celui dont la prière en jama'a, la prière en groupe est obligatoire. Pour celui dont la prière en groupe est obligatoire. Illa idha kana fi waqtin yumkinu an la yadhhaba ila al-masjid illa ba'd an tadhhaba ar-ra'ihatu min famihi ka an ya'kulaha ba'd al-isha aw ba'd salat as-subh lima rawahu ibn Khuzaymah fi as-sahih min hadith Abi Sa'id wa fihi wa man akalahu minkum fala yaqrab hadha al-masjid hatta yadhhaba rihuhu. Donc, là où il y a un istithna, une exception, c'est lorsque la personne elle va manger donc ses aliments dans un temps où qui est loin, éloigné des heures de prière en jama'a, comme par exemple qu'il le mange après la prière du Aïcha ou qu'il le mange après la prière du Subh. Et donc il y aura un temps suffisant pour que l'odeur se dissipe ensuite. Parce qu'elle ne reste pas continuelle, bien entendu, dans la bouche de l'homme ou de la femme. Et la preuve, c'est le hadith d'Abi Sa'id al-Khudri, qui est rapporté par Ibn Khuzayma dans son authentique. « وَمَنْ أَكَلَهُ مِنْكُمْ » Donc celui qui a mangé de cela, donc ici référence à ce qu'on a cité, les aliments qu'on a cités. « فَلَا يَقْرَبْ هَذَا الْمَسْجِدِ » Donc il ne s'approche pas de cette mosquée. « حَتَّى يَذْهَبَ رِيحُ » Une condition a été donnée. La condition, c'est jusqu'à que son odeur se dissipe. Donc si l'odeur elle se dissipe, même s'il a mangé et que l'odeur s'est dissipée, pas de mal donc, même ça redevient en réalité obligatoire qu'il assiste à la mosquée, s'il fait partie de ceux dont assister à la prière à la mosquée en groupe est obligatoire. Ça c'est le premier point. Le deuxième point, أن الكراهة مقصودة على النية منها أما ما يطبخ حتى يذهب ريحه فلا كراهة فيه وعلى هذا يحمل قوله كل فإني أناجي من لم تناجي ويزيده وضوحا قوله أتي بقدر فيه خضرات فكونها في القدر يدل على أنها مطبوخة. نعم. Donc ici ce qui est détestable c'est de manger donc l'ail, l'oignon, le poireau lorsqu'ils ne sont pas cuits. Par contre, s'ils sont cuits, il n'y a aucun acte détestable dans le fait de le manger, de les manger. Et c'est comme cela qu'on comprend la parole du prophète sallam. Kul fa inni unaji man lam tunaji. Mange, car je parle à celui dont toi tu ne parles pas. Ou tu n'es pas avec lui en conversation. Et ce qui est encore plus clair, c'est lorsque dans le hadith, on a apporté un qidr. Et le fait que c'est un qidr, c'est-à-dire une marmite, automatiquement ça veut dire qu'il a été cuit. Donc al-karaha huna, c'est uniquement pour ce qui n'est pas cuit. Et dans le sens ici, lorsque le prophète sallam il a trouvé une odeur, fawajada rihan, le sens ici c'est que l'odeur donc de al-buqul, qui est lui cuit, yani l'odeur de al-buqul qui est cuit, diffère de l'odeur qui est présent après l'avoir mangé. Et donc, lorsque le prophète sallam il l'a délaissé, c'est tanazzuhan minhu li kawni yunaji Jibril. Donc le prophète sallam il l'a fait parce que lui il a une spécificité, et cette spécificité c'est qu'il parle directement à Jibril. Et la preuve de cela, c'est ce qui est rapporté par Ibn Khuzayma ou Ibn Hibban min hadith Umm Ayyub قال نزل علينا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فتكلفنا له طعاما فيه بعض البقول فذكر الحديث وفيه كلوا فإني لست كأحد منكم إني أخاف أن أوذي صاحبي. Donc Umm Ayyub elle rapporte que le prophète sallam est venu auprès d'eux et qu'elles ont préparé qu'ils ont préparé donc pour lui un plat à manger. Et il s'est trouvé donc al-Buqul. Et ensuite, dans le hadith, on trouve Koulou. Donc le prophète sallam, il aurait dit manger. Fa inni lastu ka ahadi minkum. Pourquoi ? Parce que moi, je ne suis pas comme vous. Inni akhafu an udhiya sahibi. J'ai peur de porter préjudice à mon compagnon. Ici, le maqsoud, c'est Jibril. Qui pourrait donc trouver du prophète sur Salam dans le cas où il l'avait mangé une odeur qui ne lui plairait pas. Et ce qui montre également cela, et qui vient appuyer cela, c'est ce qui est rapporté par l'imam muslim, et également Ibn Khuzayma, anna Umara ibn al-Khattab, radiallahu ta'ala anhu, khataba an-nasa yawm al-jumu'a, thumma qal ayyuha an-nas, innakum ta'kuluna shajaratayn, ma arahuma illa khabithayn, aw khabithatayn. ما أراهما إلا خبيثتين هذا الثوم وهذا البصل وقد كنت أرى الرجل يوجد منه ريحه فيؤخذ بيده فيخرج إلى البقيع ومن كان أكلها فليمتها طبخا. Donc dans ce hadith d'Omar ibn al-Khattab rapporté par l'imam Muslim ibn Khuzayma, Omar ibn al-Khattab un jour il a fait donc le sermon le jour du Jumu'a. Il a sermonné les gens, il a fait le sermon, la khutba. Et ensuite il a dit, je vois que ces deux arbres sont deux arbres qui sont khabithatain. Donc on voit que le terme khabith, il peut être employé pour ce qui est d'une chose qui est à la base permise. Car l'oignon et l'ail, c'est permis de les manger. Mais ça n'empêche pas qu'on les appelle khabith ou khabithatain. Et il rappelle que il voyait une personne, lorsqu'on trouvait une odeur de lui qui apparaissait, donc qui prouvait qu'il avait mangé le basal, alors on le prenait par sa main et on l'écartait. C'est-à-dire, on le faisait sortir vers al-Baqi'a. Donc on sortait de la mosquée du prophète, sallam, on l'éloignait de la mosquée du prophète, sallam, jusqu'à donc qu'il aille jusqu'au al-Baqi'a. Et il dit, Omar ici, « وَمَنْ كَانَ أَكَلَا فَلْيُمِتْهَا طَبْخَانَ » Donc celui qui le mange alors qu'il le fasse cuire. À ce moment-là, lorsqu'il le fait cuire, on ne trouvera pas ensuite d'odeur. Et également, il est rapporté de Abu Awana, min hadith Jabir, قال النبي صلى الله عليه وسلم من أكل من هذه الشجرة يعني الثوم فلا يخشانا في مسجدنا قال ما يعني بي قال ما أراه إلا نيئة وعلى ذلك حمل البخاري فقال في الصحيح باب ما جاء في الثوم النيء نعم. Donc ensuite, dans ce hadith également, un hadith toujours de Jabir qui est rapporté par Abu Awana, Man akala min hadhi shajara, celui qui a mangé de cet arbre-là, donc ici, al-thawm, l'ail. Fala yakhshana fi masjidina, qal, ma ya'ni bihi, qal, ma urahu illa ni'a. Donc, qu'il ne vienne pas à notre mosquée. Et on lui a demandé qu'est-ce que cela veut dire. Donc il a dit, je vois cela que dans son état donc non cuit, c'est naturel, avant qu'il soit cuit. Et c'est comme cela que l'a compris l'imam al-Bukhari, c'est pour ça que dans son authentique il a dit « Bab ma ja'a fi thawm anni » donc ce qui est venu à propos de l'ail qui n'est pas cuit. Ce qui est voulu, c'est l'ail qui n'est pas cuit. Et ce qui est cuit, ce n'est pas détestable, mais par contre le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il ne l'a pas mangé à titre donc d'une spécificité qui est propre à lui. Voilà tout. Pour ce qui est du troisième point maintenant, c'est que on va comprendre de ce hadith qu'il est interdit de rentrer dans la mosquée, ou qu'il est même détestable de rentrer dans la mosquée. Ici, le détestable, c'est bimarna, interdit, pour celui qui a cette odeur. Et pourquoi cela ? لِأَنَّهُ قَدْ تَعَرَّضَ لِأُذِيَّةِ الْمَلَائِكَةِ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِ اللَّهِ. Pourquoi ? Parce qu'il va tout simplement porter préjudice aux anges, comme on va le voir dans le hadith prochain, où il est bien précisé donc que les anges يعني تتأذى مما تتأذى الإنسان يعني parmi les odeurs والصالحين من عباد الله et les hommes pieux. وعلى هذا يحمل النهي في قوله فلا يقربن مساجدنا. Et c'est comme cela donc on comprend l'interdiction, ne vous approchez pas de nos mosquées. Et certains, ils ont compris de cela, ou ils ont pris comme preuve de cela, que la prière en jama'a, en groupe, n'est pas obligatoire pour tout le monde. Laysat fard ayn. Yani, c'est pas obligatoire pour chaque personne. Tant qu'il y a un groupe de croyants qui prie à la mosquée, alors ça suffit pour que les autres ne prient pas à la mosquée, ou ça ne devient plus obligatoire. Comme si c'était fard, donc kifa'i. Mais ils ont réfuté ce istidlal, Ibn Daqiq al-Aïd, également al-Hafidh fil-Fath, également Abdelaziz ibn Baz, ta'liqan. Car ce n'est pas une preuve en soi. Et c'est uniquement dans un cas précis, pour celui qui a mangé donc ses aliments. Le quatrième point, il y a une version donc du hadith, min riwaya Ahmed ibn Salih an ibn Wahab an da Shaykhain bi Badrin. وخلفه سعيد بن عفير عند البخاري وأبو الطاهر وحلملته ابن يحيى عند مسلم فقال كلهم بقدر ورجح بعضهم الرواية الأولى بأن ابن وهب فسر البدر بأنه طبق ورجح الحافظ رواية الجماعة وهو الذي يظهر من صنيع البخاري في تخصيصه النهي بالني وبه يحصل الجمع بين الأدلة. À la kullihal ici, lorsque un des termes qui était employé et qui a pour sens ici un plat, on aurait pu comprendre donc dans une version. Il n'a pas été dit qidr, mais il a été dit un autre sens, qui a bimarna tabak, c'est-à-dire un plat. Et si maintenant le sens plat, qu'est-ce que ça pourrait dire ? Ça pourrait dire tout simplement que ces aliments, ils ont été présentés au prophète sallallahu alayhi wa sallam sans qu'ils ne soient cuits. Mais d'autres versions sont venues donc avec le terme qu'on a vu, le qidr, qui est donc la marmite. Et à ce moment-là, avec le terme la marmite, il n'y a aucun doute que ça a été cuit. Et donc à partir de là, Al-Hafidh ibn Hajar, lui, il a vu que la version prépondérante, c'était celle où il y avait donc Al-Qidr. Et c'est pour ça que l'imam Al-Bukhari, lorsqu'il a mis un titre donc à ce hadith, il a bien fait apparaître que c'était spécifique à celui qui n'était pas cuit, c'est-à-dire les aliments qui ne sont pas cuits. Et donc ainsi, yahsul al-jam'a. Ainsi donc on a réuni entre les preuves. C'est-à-dire qu'il est interdit d'approcher la mosquée pour celui qui a mangé cela, ces aliments non cuits. Et pour ceux qui l'ont mangé cuit, il n'y a aucune interdiction et ce n'est plus détestable de le manger. Sauf dans le cas du prophète, où lui il a la spécificité. Donc c'est comme ça qu'on comprend tout ce qui a été cité. Khamisan, donc le cinquième point. Certains ont dit que le nahi c'était spécial à la mosquée du prophète. Car ici fil lov, qu'est-ce qu'il dit dans le hadith wallov wal yahtazil masjidana? C'est-à-dire qu'il s'écarte de notre mosquée. Et la mosquée, bien entendu, qui est voulue ici, c'est la mosquée du prophète sallallahu alayhi wa sallam. فَلَا يَقْرَبَنَّ مَسْجِدَنَا. Donc il ne s'approche pas de notre mosquée. Donc ici, la mosquée du prophète. Et le shir, il va répondre, il va dire هَذَا مَرْجُوح. Cela donc n'est pas acceptable. Et pour cause, c'est qu'il y a deux points qui viennent contredire cela. Le premier point, c'est que l'illah, donc al-illa qui était cité, le fait d'avoir mangé donc les aliments cités sans qu'ils ne soient cuits, Ce n'est pas spécifique à la mosquée du prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais c'est dans tous les cas, parce que c'était une illa qui est générale et donc qui va apparaître pour chaque mosquée et non seulement pour la mosquée du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc lorsqu'on connaît l'illa, c'est-à-dire la cause de l'interdiction, cette cause-là elle va être présente non seulement dans le cas de la mosquée du prophète, mais toutes les autres mosquées. Et dans toutes les mosquées, les hommes, ils prient, et également les anges, ils assistent. Donc, le préjudice, il arrive bel et bien, que ce soit dans la mosquée du prophète ou dans les autres mosquées. Ça, c'est le premier point. Et le deuxième point, c'est qu'il y a des versions où il a été dit « al-masajid ». Al-masajid, yani les mosquées. Bil-umum, c'est-à-dire donc un terme général ici, les mosquées. Donc à ce moment-là, on s'aperçoit que ce qui a été dit est rejeté. Et même, il était rapporté par, dans certaines causes du hadith, que c'était durant la ghazwa de Khaybar. Et donc, ça montre que Al-Musalli, qui est concerné, c'est dans tous les lieux, à la mosquée du prophète et dans les autres mosquées. Voilà donc pour ce qui est de ce premier hadith. Le deuxième hadith, c'est toujours un Jabir, qui est le hadith 118. Un Jabir, radiallahu ta'ala anhu, anna nabi sallallahu alayhi wa sallam, qal, man akala thawma wal basala wal kurraf, fala yaqrabanna masjidana, فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه الإنسان. Donc on l'a vu pour ce qui est du fiqh de ce hadith précédemment. Donc ici, celui qui a mangé l'ail, l'oignon, le poireau, alors qu'il ne s'approche pas de notre mosquée. Car les anges تتأذى مما يتأذى منه الإنسان. Donc le préjudice qui advient pour les anges, ou alors le préjudice qui advient à l'homme, il est le même que celui qui advient aux anges. Ou comme l'homme, il sent la gêne, il déteste sentir une mauvaise odeur, de même al-malaika, de même les anges. Donc ils sont pareils pour cela. Ils ont un point commun dans cela. Ibn Daqiq al-Aid il dit وقد توسع القائسون في هذا حتى ذهب بعضهم الى من كان به بخر او جرح لو ريح كريه يجري هذا المجرى يجري هذا المجرى. Donc Ibn Daqiq al-Aid tout simplement il dit ici que ceux qui ont fait preuve d'analogie, donc l'analogie elle est basée sur quoi? Sur al-illa ici de ce hadith. Et l'illa c'est quoi? C'est le fait d'avoir une mauvaise odeur qui sort de sa bouche ou de soi. Donc le fait d'avoir une mauvaise odeur qui sort, ça c'est l'illa. Et donc, ceux qui ont fait preuve d'analogie concernant donc cette cause-là, ils ont même jusqu'à été dire que si une personne, par exemple, a une blessure ou autre, et qu'il sort une mauvaise odeur de cela, alors ça rentre dans le même hukm. Dans le même statut. Tayyib. Et le shir, il va, shir al-Najmi ici, il va compléter, il va dire, « وَمِمَّا يَلْتَحِقُ بِذَلِكُ » Donc, ce qui est rattaché à cela, ce qui englobe cela, et qui prend donc le même statut, le même hukm, sans doute, c'est al-Dukhan, la fumée de la cigarette. La cigarette. Dans l'ensemble, dans toutes ses utilisations, que ce soit la cigarette elle-même qu'on connaît, ou alors que ce soit ce qu'on appelle chicha, etc. Tout ce qui rentre dans al-dukhan. Tout cela, lorsque la personne, donc, elle fume la cigarette, et donc elle a une odeur qui sort, une mauvaise odeur qui sort de sa bouche, cette personne-là, il lui interdit de venir à la mosquée. Il lui interdit de porter préjudice à ses frères et de porter préjudice tout comme la personne qui a mangé le basal ou le thawm ou le kurraf sans l'avoir fait cuire, qu'il l'a mangé directement, naturellement. De même, Et combien de fois, ya Abdullah, lorsque tu viens à la mosquée, il y a une personne qui vient à côté de toi qui a fumé une cigarette. Quelle est l'odeur que tu sens de cette personne-là, na'oudhou billah? Car on sait que la cigarette, lorsqu'elle... l'odeur froide de la fumée de la cigarette, même si c'est après un certain temps, elle est même encore plus horrible que la fumée qui sort directement de la cigarette. C'est encore plus horrible de sentir l'odeur froide de la cigarette. C'est encore plus horrible. Et donc lorsqu'une personne elle vient à côté de toi qui a fumé une cigarette, il y a un temps qui est passé, et tu sens cette odeur à côté de toi, c'est détestable. Ça te déconcentre. Et ça te porte préjudice. Et de même pour Al-Malaïka qui sont autour de nous et qui assistent. Na'oudhou billah. Donc cette personne-là, elle a pris le ithm, elle a pris le péché de venir à la mosquée alors qu'elle a cette sale odeur avec lui. Na'oudhou billah. Et combien de gens, ils font cela? Et combien de gens, ils ne prêtent aucune attention à ce préjudice qu'ils portent à leurs frères? Wa al-malaïka. Ben le shir, il dit que c'est encore pire la cigarette, encore pire que le basal wa thum. C'est même encore pire. Et ça, il n'y a aucun doute sur cela. Bal yashaddu natnan wa khubfan. Ou natinan wa khubfan. Tout en sachant qu'il y a entre ces aliments et la cigarette des différences. La première différence, c'est que al-basal wa thum halalun bin nas al-hadith wa bi ijma' al-muslimin. C'est que al-basal wa thum, c'est permis, c'est halal, que ce soit par le texte même, c'est-à-dire le hadith, ou que ce soit par le ijma', l'unanimité des musulmans. Wa minha, manger le basal wa thoum, ça fait partie des aliments qui sont en réalité profitables pour le corps. Et ça par l'unanimité des docteurs. Alors que dukhan, c'est dar. Ça a des effets très négatifs pour le corps et porte de grands préjudices par l'unanimité des docteurs. Et le chien ensuite, il va rappeler certains méfaits par rapport à cela, ni par rapport à la cigarette. Ensuite, il va dire également que les docteurs, ils ont rapporté plus de 20 ou une vingtaine de maladies qui sont issues et de maladies qui tuent l'homme, qui sont issues donc de la cigarette. Il les a cités, comme par exemple le cancer des poumons, le cancer de la gorge. Également, il a cité le cancer de l'œsophage, du pancréas, le cancer de la vessie, le cancer des reins. Également, ce qui cause les arrêts cardiaques, etc. Il a rapporté le chir ici. Il y en a beaucoup de préjudices mortels qui sont causés par la cigarette. Et donc, lorsque son préjudice est plus que clair, وَإِذَا قَدْ ثَبَتَ ضَرَرُهُ فَإِنَّهُ يَحْرُمْ تَنَاوُلُهُ. Donc lorsque son préjudice est attesté, alors il est interdit de le consommer. Car Allah Azza wa Jalla dit وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ. Ne tuez pas vous-même. إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا. Allah Azza wa Jalla est envers vous très miséricordieux. Et nous disons à l'ensemble des gens, et plus particulièrement les mudarrisin, ceux qui enseignent, et qui bien entendu malheureusement, pas ceux qui enseignent, et malheureusement parmi eux qui fument. Naqul ittaqullaha fi anfusikum, craignez Allah pour vous-même, et craignez Allah pour ceux qui sont sous votre responsabilité. Et le shiril va dire, il va rappeler, encore une fois, que le basal wa thoum, ou plutôt que la cigarette est pire que le basal wa thoum, par rapport à son khubf, et qui fait beaucoup plus de mal aux malaïka et aux personnes pieuses que al-thawm al-basal. Et il cite un verset du Coran, alladhina yattabi'una ar-rasul an-nabiy al-ummiya, donc celui qui suit le prophète, l'envoyé, qui était illettré, alladhi yajidunahu maktuban 'indahum fi at-tawrat wal-injil, et qu'ils ont trouvé donc écrit, c'est-à-dire sa venue, auprès d'eux, dans la Torah et l'Injil. C'est quoi sa caractéristique? Ya'muruhum bil ma'ruf, wa yanhahum 'anil munkar. Il leur ordonne le bien il leur interdit le mal. وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ il leur rend permise, licite, les bonnes choses. وَيُحَرِّمُ عَلِيهِمُ الْخَبَائِفِ il leur interdit les mauvaises choses. Et bien entendu, sans doute, بِلَشَكْ وَلَا رَيْبْ que la cigarette rentre dans ce qui est الْخَبَائِفِ وَلِأَنَّ الْإِنْفَاقِ فِي إِسْرَافِ وَالتَّبْذِيرِ c'est-à-dire dépenser son argent pour acheter des cigarettes, il y a dedans un israf wa tabdhir. Et Allah Azza wa Jalla yaqul wa la tusrifu innahu la yuhibbul musrifin. Donc il y a du gaspillage. Certains savants ont dit qu'il y avait une différence entre l'israf wa tabdhir. Certains ont dit l'israf c'est donc de dépenser avec excès dans ce qui est permis, at-tabdhir c'est de dépenser dans ce qui est interdit. Mais en réalité, le sens global que l'on trouve fi sharia, c'est pour ça que le shir cite les deux termes, israf wa tabdhir, les deux peuvent rentrer dans ce qui est, ou les deux rentrent également dans ce qui est interdit. C'est pour ça que on va voir qu'Allah Azza wa Jalla également il dit wa anna al musrifin hum ashabun nar, al musrifin donc hum ashabun nar, ce sont les gens du feu. Et il dit également Allah Azza wa Jalla inna al mubadhirin kanu ikhwan al shayatin. Donc, al-mubadhirin, ceux qui sont dans l'excès, ceux qui dépensent dans l'excès, kanu ikhwan ash-shayatin, ils sont les frères des diables. Et il est clair que celui qui dépense dans cette cigarette qui est haram, il rentre dans ces versets-là. Il rentre sous ce wa'id, ce tahdid, Allah al-musta'an. Et même le shir va faire une comparaison. Il va dire walau anna insan kasaba shay'an min al-mal. Donc si une personne elle acquiert un bien de par son travail, thumma ahraqahu, et ensuite ce bien là, l'argent qu'il a gagné, il le brûle. La udda majnunan, celui qui voit ça, qui voit cet acte de cette personne, il va dire cette personne là elle est folle, c'est un fou lui. Alors que, si on regarde bien, le fait d'avoir brûlé cet argent, d'avoir dissipé cet argent, d'avoir donc gaspillé cet argent, il y a une seule moussiba, parce qu'elle est externe au jism. Alors que, al-dukhan, il y a deux moussiba. Moussibatan, itlaf al-mal, donc perdre son argent volontairement, gaspiller son argent volontairement, et en plus, ad-darar bil-jism, et faire du mal à son corps. Wal-khulasa, la conclusion, c'est qu'ad-dukhan, c'est haram, la cigarette, c'est interdit, et tout ce qui y rentre avec la cigarette, comme chicha, etc., c'est interdit. Pourquoi? Car il n'y a aucune faïda. La manfa'atan fihi aslan, qu'il y a un mal. Il y a un préjudice, car elle contient cette cigarette des produits qui empoisonnent et qui tuent, comme la nicotine, etc. Il faut bouter khubfihi, car c'est quelque chose qui est considéré comme khabith, car c'est du gaspillage d'acheter des cigarettes, au tabvir, et que ça rentre également dans une catégorie de la drogue, mukhaddar. La personne qui fume la cigarette, elle fume lorsqu'elle est nerveuse. Et aslan, cette cigarette, elle produit la nervosité, et ensuite, ou alors le fait d'avoir consommé, ça produit en réalité de la nervosité, le fait ensuite de fumer cette cigarette, ça apaise sur le moment. Ça apaise sur le moment. Donc ça a un effet de tahdir. Et le shir va répondre à ceux qui vont dire Mali, wali an af'ala bihi ma asha. C'est-à-dire, certains ils vont dire ça me regarde, moi, et moi je fais ce que je veux. Alors le shir il dit on va dire à ces gens-là, innal mala amanatun fi yadik. L'argent, c'est une amana, un dépôt de confiance qu'Allah Azza wa Jalla il a placé entre tes mains. Wa anta mas'ulun an kasbihi. Et tu es responsable comment tu vas acquérir ce bien. Wa mas'ulun an tasrifihi. Et tu es responsable comment tu vas consommer ce bien. Qu'est-ce que tu vas faire avec ce bien ? Fa fil hadith lan tazula قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع. Donc, يوم القيامة, la personne, elle va être questionnée sur quatre choses. Et parmi ces choses, وَمَالِهِ مِنْ أَيْنَ اكْتَسَبَ, son argent, d'où il l'a pris, d'où il l'a gagné, d'où il l'a acquéri. وَفِيمَ أَنْفَقْ, et où il l'a consommé, où il l'a utilisé. Qu'est-ce qu'il a fait avec cet argent-là ? وَبِاللَّهِ تَوْفِقْ. Donc voilà pour ce rappel du shir et concernant les questions de fiqh sur ces deux hadiths. On s'arrête ici pour aujourd'hui, bi'idhnillahi ta'ala. Et le prochain cours, donc toujours le vendredi, à la même heure, vers les 8h. Et la rediffusion le mercredi à 19h30, donc de ce même cours. Subhanakallah bihamdika. Ashhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilayk. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.